Bizarre, fantasque, effrayant, philosophique ou malicieux.
Tout simplement universel.
Le conte.
La nouvelle ou la fable nous font des clins d'œil.
Ne boudons pas notre plaisir.
Installons-nous confortablement et écoutons.
Ciel, si ceci, ciel, si ceci,
qu'on goûte.
Une émission proposée par Jacqueline.
Sur Radio Bartas.
Le vilain petit canard. Le temps de la moisson était proche. Les vieilles femmes faisaient des poupées avec des gerbes de blé. Les hommes âgés raccommodaient les couvertures. Les filles brodaient des fleurs rouges sur leurs robes blanches. Les garçons chantaient en chargeant le foin doré. Les femmes tricotaient des chandails rugueux pour l'hiver. Les hommes aider à ramasser, couper, accueillir les fruits que donnaient les champs. Le vent commençait tout juste à desserrer le lien de la feuille et de l'arbre, chaque jour un peu plus, un tout petit peu plus. Et en bas, au bord de la rivière, une mère cane couvait ses œufs. Tout se passait selon l'ordre des choses pour cette mère cane. À la fin, ses œufs se mirent à trembler un par un, jusqu'à ce que les coquilles se craquèlent et que ses canetons sortent en titubant. Mais il resta un œuf, un très gros œuf, qui demeurait immobile comme une pierre. Une vieille cane s'approcha et la mère cane lui montra fièrement ses petits. « N'est-ce pas qu'ils sont beaux ?» demanda-t-elle avec orgueil. Mais la vieille cane remarqua l'œuf qui n'avait pas éclos. Elle tenta de dissuader la mère cane de le couver plus longtemps. « C'est un œuf de dinde !» s'exclama-t-elle. « Pas du tout le genre d'œuf qu'il faut. On ne peut mettre à l'eau une dinde, vous savez. » Et elle savait de quoi elle parlait car elle avait essayé. Mais la mère cane avait couvé si longtemps que ça ne la gênait pas de continuer encore un peu. « Je ne me fais pas de soucis pour ça, » dit-elle. « Mais savez-vous que le père des canetons, ce voyou, n'est pas venu me voir une seule fois ?» Un peu plus tard, le gros œuf finit par frémir et par rouler avant de s'ouvrir. Un être gauche et de grande taille en sortit. Sous sa peau, on voyait courir ses veines rouges et bleues. Ses pieds étaient mauves, ses yeux d'un rose transparent. La mère cane tendit le cou pour le dévisager et elle ne put s'empêcher de le trouver laid. Elle s'inquiéta. Peut-être est-ce une dinde au fond. Mais quand le vilain petit canard se mit à l'eau avec le reste de ses petits, la mère cane vit qu'il nageait parfaitement. Oui. Il est bien à moi, même si son aspect est très particulier. D'ailleurs, en fait, si on le regarde sous le bon angle, il est presque beau. Elle le présenta donc aux autres créatures de la basse-cour. Mais avant qu'elle ait pu dire « ouf », un autre canard traversa la cour à toute vitesse et se jeta sur le vilain petit canard qu'il mordit au cou. « Arrête !» cria la mère cane. Mais l'assaillant cracha. Il a l'air si bizarre, il est si laid qu'il a besoin d'une bonne leçon. Et la reine, la cane qui portait un chiffon rouge à la patte, déclara. « Oh, une nouvelle couvée, comme si nous n'avions pas assez de bouche à nourrir. Quant à celui-là, le vilain gros, c'est sûrement une erreur. » « Ce n'est pas une erreur, » dit la mère cane, « il sera très fort. C'est juste qu'il est resté un peu trop longtemps dans l'œuf et qu'il a gardé une forme un peu bizarre, mais ça va s'arranger, vous allez voir. » Et elle lissa les plumes et les épis du vilain petit canard. Mais les autres firent tout pour persécuter le vilain petit canard. Ils se jetèrent sur lui en sifflant et criant, le mordirent, lui donnèrent des coups de bec. Et tout ne fit que s'aggraver avec le temps. Il se cacha, esquiva, zigzaga à droite et à gauche, mais il ne put leur échapper. Il était malheureux comme les pierres. Au début, sa mère le défendit, mais elle finit par se lasser et s'exclama exaspérée : « Si seulement tu pouvais t'en aller !» Alors, le vilain petit canard partit, les plumes hérissées, tout crotté. Il courut encore et encore jusqu'à arriver dans un marais. Là, il s'arrêta au bord de l'eau, tendit le cou et but. Deux jarres l'observaient parmi les joncs. Ils étaient jeunes et imbus d'eux-mêmes. « Dis donc, vilain machin, raillèrent-ils, tu veux venir avec nous dans le pays voisin ? Il y a là un troupeau de jeunes oies mariés. » Soudain, des coups de feu retentirent. Les jarres s'effondrèrent avec un bruit sourd et leur sang tint à l'eau de rouge. Le vilain petit canard plongea pour s'abriter sous la surface. Autour de lui, ce n'était que coups de feu, fumée et aboiement de chiens. Enfin, le calme revint sur le marais. Le vilain petit canard s'enfuit aussi vite qu'il pouvait. Vers le crépuscule, il parvint à une misérable cahute. Une ficelle tenait la porte et les murs n'étaient que fissures béantes. Là vivait une vieille en haillons en compagnie d'un chien hirsute et d'une poule qui louchait. En échange du gîte et du couvert, le chat attrapait les souris et la poule pondait. La vieille femme fut heureuse d'avoir trouvé un canard. « Peut-être cette bête va-t-elle pondre » pensa-t-elle. « Et sinon, on peut toujours le tuer et le manger. » Le canard resta donc. Mais le chat et la poule le tourmentaient en disant « À quoi sers-tu si tu ne peux ni pondre ni rien attraper ?»« Ce que je préfère, » soupira le canard, « c'est être en dessous. » Que ce soit sous la voûte bleue du ciel ou sous l'eau, si bleue, si fraîche. Le chat, qui n'imaginait pas un seul instant être sous l'eau, critiquait les rêves stupides du petit canard. La poule, qui n'imaginait pas non plus mouiller ses plumes, se moquait aussi de lui. Il fut bientôt évident que le petit canard ne trouverait jamais la paix dans cet endroit. Alors, il s'en alla pour voir si la vie serait plus agréable un peu plus loin. Il arriva à une mare. Tandis qu'il nageait, il se mit à faire de plus en plus froid. Au-dessus de lui passa un vol de grands oiseaux, les plus beaux qu'il n'ait jamais vus. Ils crièrent en se tournant vers lui et en les entendant, il sentit son cœur bondir et se briser. En même temps, il cria en retour et le son qu'il émit lui était inconnu. Il n'avait jamais vu plus magnifique créature et il ne s'était jamais senti si affligé. Il tourna encore et encore sur l'eau pour les suivre des yeux jusqu'à ce qu'elles aient disparu. Puis il plongea vers le fond du lac et s'y pelotonna tout tremblant. Il ne s'appartenait plus car il éprouvait un amour désespéré pour ces grands oiseaux, un amour qu'il ne pouvait pas comprendre. Le vent se fit plus froid et plus violent, de jour en jour et après le gel vint la neige. Les vieux cassaient la glace dans les seaux de lait, les vieilles femmes filaient tard dans la nuit. Les mères nourrissaient trois bouches à la fois à la lueur des chandelles et les hommes partaient à la recherche des moutons à minuit sous un ciel blanc. Les jeunes gens avaient de la neige jusqu'à la taille en allant traire les vaches, et les jeunes filles croyaient voir le visage de beaux jeunes gens dans les flammes en préparant à manger. Et en bas, dans la mare, le petit canard devait nager en cercle de plus en plus rapide pour se garder un espace libre dans la glace. Un matin, il se trouva pris dans la glace. C'est alors qu'il crut mourir. Deux mallards vinrent se poser sur la surface gelée. Ils le regardèrent, puis jetèrent. « Tu es laid, c'est bien triste. On ne peut rien pour quelqu'un comme toi. » Et ils s'envolèrent. Heureusement pour lui, un fermier passait par là. Il le libéra en cassant la glace avec son bâton. Puis il le mit sous son manteau et rentra chez lui. Dans sa maison, ses enfants tendirent les mains vers le petit canard qui prit peur et gagna les combles d'un coup d'aile, faisant tomber toute la poussière dans le beurre. De là, il plongea droit dans le pot à lait. Il en sortit tout mouillé et tout étourdi pour retomber dans le sac de farine. La femme du fermier le chassa à coups de balai pendant que les enfants hurlaient de rire. Le petit canard battit des ailes et parvint à s'échapper par la chatière. Une fois dehors, enfin, il resta à moitié mort dans la neige. Mais il finit par repartir et gagna un autre étang, une autre maison, et encore un autre étang et une autre maison. Ainsi passa-t-il l'hiver entre la vie et la mort et la vie. Malgré tout, le souffle tiède du printemps revint. Les vieilles femmes secouèrent les lits de plumes. Les vieux rangèrent leurs sous-vêtements. Des nouveau-nés vinrent au monde dans la nuit, tandis que le père faisait les 100 pas dans la cour sous les étoiles. Dans la journée, les jeunes filles se mettaient des jonquilles dans les cheveux et les jeunes gens étudiaient les chevilles des jeunes filles. Dans un étang proche, l'eau tiédit, et le vilain petit canard qui flottait là déploya ses ailes. Qu'elles étaient grandes et puissantes, ces ailes! Elles le soulevèrent et l'emportèrent très haut, au-dessus de la terre. De là-haut, il voyait les vergers en robe blanche, les fermiers qui labouraient, les petits de tous les animaux de la nature qui éclosaient, culbutaient, bourdonnaient, nageaient. Et sur l'étang, glissaient trois cygnes. Ces mêmes créatures magnifiques qu'il avait vues l'automne précédent, lui laissant une douleur au cœur. Quelque chose le poussait vers eux. Et s'ils font mine de m'accueillir, puis s'envolent en riant au moment où je vais les rejoindre ? Se demanda le petit canard. Mais il descendit d'un vol glissant et se posa sur l'étang, le cœur battant. Dès qu'ils le virent, les cygnes nagèrent à la rencontre. « Cette fois, c'est la fin, » pensa le petit canard. « Mais si je dois mourir, que ce soit sous les coups de ces magnifiques créatures, plutôt que du fait des chasseurs, des femmes de fermiers ou des rigueurs de l'hiver. » Et il courba la tête dans l'attente des coups. Or, voilà que l'image reflétée par l'eau était celle d'un cygne à la superbe parure. Plumage de neige, œil sombre et tout. Au début, le vilain petit canard ne se reconnut pas, car il ressemblait aux magnifiques étrangers, ceux qu'il avait admirés de loin. Il se révéla qu'il était bien l'un des leurs. Son œuf avait roulé accidentellement au milieu d'une famille de canards. Il était un cygne majestueux. Pour la première fois de sa vie, les siens l'approchaient, le touchaient gentiment, affectueusement, du bout de leurs ailes. Ils lissaient ses plumes avec leur bec et nageaient autour de lui en signe de bienvenue. Les enfants qui venaient donner du pain à manger au cygne s'exclamèrent « Il y en a un nouveau !» Et comme tous les enfants du monde, ils allèrent le raconter partout. Et les vieilles femmes vinrent au bord de l'eau et dénouèrent leurs longues tresses d'argent. Et les jeunes gens mirent leurs mains en coupe, prirent un peu d'eau d'un verre profond et en aspergèrent les jeunes filles, qui rougirent comme des pédales. Les hommes échappèrent quelque temps à la traite juste pour respirer l'air. Les femmes échappèrent quelque temps au raccommodage juste pour rire avec leurs compagnons. Et les vieux racontèrent des histoires sur la guerre qui était trop longue et la vie trop courte. Et un par un, parce que la vie passe et le temps et la passion, tous s'en allèrent en dansant. Les jeunes gens, les jeunes femmes, tous s'en allèrent en dansant et les anciens, les époux, les épouses, tous s'en allèrent en dansant. Les enfants et les cygnes s'en allèrent tous en dansant, en nous laissant nous et le printemps. Et en bas, près de la rivière, une autre canne commence à couver ses œufs. Extrait de « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes.